Alors, je crois que vous êtes plusieurs à ne pas être là tout à fait pour ce café conso, mais j'espère que vous y trouverez un intérêt. L'objectif, c'est de présenter des initiatives de consommation collaborative qui touchent au tourisme et aux vacances collaboratives. Donc, on a 5 intervenants ce soir qui vont présenter en fait les projets qu'ils portent et vous éclairer donc sur que ce soit sur le volet logement, transport ou loisirs. Concernant tout ce qui touche aux vacances collaboratives. Alors moi, je suis chef de projet chez Graines de Changement. Donc Graines de Changement, c'est une structure d'information et on initie en fait des projets autour de la consommation responsable et en faveur du développement durable. On porte notamment une initiative qui s'appelle Mes courses pour la planète, qui est un site internet c'est un laboratoire de consommation responsable. Et on initie en fait ces premiers cafés conso pour sensibiliser le grand public et à ces thématiques-là et lui permettre d'échanger avec des professionnels et toucher également les médias. Alors on avait initié des premiers cafés conso en 2008 et là c'était à l'entrepôt à l'origine. Et là, cette année, on les a réorganisés, mais dans ce lieu. Donc, on est très content d'être accueillis par la recyclerie, parce que comme c'est dédié à tout ce qui touche au collaboratif et au développement durable, etc., ça fait sens. Et donc, on est très heureux de pouvoir le faire ici, d'autant plus qu'on a un accès plus facile au grand public. Alors, donc, on va vous présenter les projets de Bedi Casa, donc qui touche au logement. On a également Miora qui nous parlera de son expérience de couchsurfing. On va vous présenter également Linksengo, Drivey et Cancer en appart. Donc l'objectif de ce café conso sur les vacances collaboratives, c'est de se dire qu'en fait il y a plusieurs moments dans la vie où on est plus disposé à repenser ses modes de consommation et ses comportements. Ça peut être de façon ponctuelle pour la naissance d'un enfant ou de façon plus récurrente pour les vacances. En l'occurrence, les grandes vacances, c'est souvent un peu une parenthèse dans l'année où on est plus disposé, plus disponible pour repenser ses comportements d'usage et adopter des comportements de consommation plus responsables. Alors, le collaboratif, concrètement, c'est privilégier l'usage sur la possession de biens. Alors en France, il y a à peu près 25% des Français qui ont entendu parler du collaboratif, ce qui est relativement peu puisqu'en réalité, il y a 75% des Français qui pratiquent le collaboratif presque sans le savoir, c'est-à-dire via le troc, l'échange d'appartements, le covoiturage, etc. Et donc là, je vais inviter nos intervenants à venir se présenter et ensuite on vous donnera la parole si vous avez des questions. D'une manière plus générale ou bien sur leurs initiatives en particulier. Alors je vais d'abord appeler Mathieu Lemonnier, qui est président et cofondateur de Linksengo. Alors donc Linksengo, c'est une plateforme de mise en relation entre vacanciers qui a été créée en 2013-2014. Alors je vais laisser Mathieu se présenter.
Bonsoir à tous et merci pour l'invitation d'abord. Linksengo, donc c'est un réseau, de membres qui, pour les vacances, en fait, ont envie et la volonté de partager des nouvelles rencontres. Ces nouvelles rencontres, ils les font comment ? Elles le font en fait en s'inscrivant sur le site, puisque l'inscription est obligatoire. Et ensuite, vous avez la possibilité de voir un petit peu qui va être et qui vont être en fait vos voisins de vacances. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on va être plutôt dans un lieu où il va y avoir des personnes un peu plus âgées, des personnes plutôt en couple, ou par exemple, comme moi, des jeunes qui sont prêts à faire la fête, de nouvelles rencontres, etc. Donc, l'outil marche quand même pas mal là pendant les vacances. On a énormément de demandes, énormément d'inscrits qui viennent tous les jours. Hein, on parle d'à peu près une centaine. Et on commence à répondre vraiment à notre ambition qui est vraiment de connecter les gens entre eux. Quand ils partent par exemple pour un stage à Toulouse quand on est parisien ou en stage à Dublin, à Berlin, etc. Mais évidemment, on s'adresse avant tout aux vacanciers, pas aux voyageurs vraiment, mais aux vacanciers. Qui sont par exemple en club à l'UCPA, au Club Med ou qui sont en vacances avec leur famille évidemment. Donc voilà.
Alors Du coup, pour cette plateforme, à quelle cible vous vous adressez principalement ?
Alors, lorsqu'on a lancé le service et lorsqu'on y a d'abord réfléchi l'été dernier, on pensait s'adresser vraiment aux jeunes 15-18 ans qui partent encore avec leurs parents et qui vont se retrouver en fait seuls au camping, par exemple, ou lors de leur maison, lorsqu'ils sont avec leur famille lors de maison de vacances, par exemple. On s'aperçoit que ces jeunes-là sont assez difficiles à toucher. Pourtant, ils sont très équipés en termes de smartphones et sont habitués aux usages collaboratifs d'Internet. Aujourd'hui, en fait, on arrive plus à toucher des groupes de personnes, 20-25 ans, plus que des individus à proprement parler.
Et comment votre plateforme ou le service que vous proposez, ça peut bouleverser ou révolutionner les vacances ?
Aujourd'hui, en fait, les usagers, notamment les Français, on est quand même pas mal sensibilisés à tout ce qui est collaboratif, au travers, par exemple, de l'hébergement, on en a ici, des usages transport et autres. Nous, on se place véritablement sur le côté social, c'est-à-dire de faire des nouvelles rencontres qui peuvent être uniquement virtuelles, c'est-à-dire je vais aller la semaine prochaine à Perpignan et je veux voir finalement quelle est la meilleure boîte de nuit. Donc là, je vais directement sonder les personnes qui sont là-bas. Ou aussi des contacts et des rencontres réelles, que ce soit des contacts professionnels ou aussi évidemment amoureuses.
Donc du coup, est-ce que vous vous définissez un peu comme le mythique des vacances ?
Non, on peut pas véritablement parler, on se positionne vraiment pas comme ça, puisqu'il y a par exemple, si vous connaissez certains, Tinder qui le fait très très bien et notamment lorsqu'on est directement en vacances, et je vous promets, je l'ai utilisé cet hiver, ça fonctionne. C'est américain, c'est énorme. Nous on veut pas se positionner là-dessus parce que on veut pas finalement se restreindre à un marché qui est vraiment le marché des vacances et pas que les vacances amoureuses en fait, que la partie amoureux des vacances.
Ok, merci. Alors je vais appeler Jérémy Abric, cofondateur de Concert en Appart. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le concept de ta plateforme ?
Oui. Bonjour à tous. Alors, Concert en Appart, c'est parti d'une volonté de créer des belles histoires entre des musiciens et entre des particuliers, entre des hôtes. Alors, le principe, c'est on a plein de musiciens qui essaient de se faire connaître, qui galèrent, qui viennent jouer dans des bars, ou peut-être un peu comme ici, ils sont en train de jouer devant un public qui n'est pas venu pour ça, et ils sont peut-être vus un peu comme un fond sonore devant leur auditoire. Et qui sont en recherche justement d'un public qui est beaucoup plus attentif, qui est sensible à leur musique, qui a envie de les accompagner dans leur démarche artistique. Et donc ils cherchent au final à jouer devant une vraie scène, qui n'est pas forcément quantitative, mais qui va être très qualitative. Et ils sont aussi dans une démarche de se dire que l'industrie musicale aujourd'hui, elle est compliquée, que se faire signer chez un label, ça ne change pas grand-chose si on n'est pas déjà très connu soi-même, et que si on ne se débrouille pas soi-même, on ne va jamais réussir à émerger et à se faire connaître. Donc ça, c'est le premier côté qui est le côté des musiciens. Et puis à côté, on a celui du public qui est en recherche de lieux et d'expériences un peu plus personnelles, un peu plus authentiques, qui pour partie est un peu revenu des concerts qu'on peut retrouver dans les grandes salles, un peu parfois impersonnel justement. Le groupe vient, joue, repart. Il y a parfois un manque d'émotion qu'on peut retrouver et qui est plus sur des choses un peu communautaires. Alors on est dans un lieu justement qui est vraiment porteur de ces valeurs-là, donc c'est pour ça que c'est intéressant. D'échange, d'être avec ses amis, sa famille, un cercle peut-être un peu plus restreint, mais là aussi plus qualitatif et porteur de vraies valeurs. Et donc concert en appart, le site, sa vocation, c'est de faire que ces deux types de publics puissent se retrouver, d'un côté des musiciens en recherche d'un public attentif, et de l'autre côté ces hôtes qui ont envie d'avoir des expériences un peu extraordinaires chez eux.
Et ça, côté utilisateur, vous avez remarqué un besoin ou une demande au départ ?
Alors l'histoire du site, en fait, elle est partie d'une discussion avec un musicien qui fait ça depuis 2 ans, qui a fait une quarantaine de dates en appartement uniquement, qui ne joue maintenant plus qu'en appartement, justement pour ces raisons que j'évoquais, de proximité, de vrais liens avec son public. Et qui disait, c'est dommage, il n'y a rien, il n'y a aucun lieu en fait, qui nous permet de trouver un public ou un public de nous trouver. Et c'est des choses, on voit les concerts en appart, alors c'est repris par des grands médias, il y a W9 qui l'a repris avec des grandes stars, il y a plusieurs associations qui le proposent aussi avec des groupes un peu plus connus. Donc c'est des choses qui existent déjà, on voit qu'il y a plein d'initiatives qui existent, parfois très locales, parfois très spécifiques, parfois très chères. Et donc l'ambition du site, c'est vraiment de créer à un niveau national et pour un public de musiciens en développement, cette plateforme de mise en relation qui permette à chacun derrière de trouver ses musiciens. Après, pour répondre à ta question, c'est quelque chose qui est en train de se lancer, donc les gens, on a entendu parler parfois plus ou moins fortement. Et toute l'ambition, tout l'enjeu, c'est de faire savoir que ça existe, que c'est pas compliqué à mettre en place et que c'est quelque chose qui peut être fait de manière presque aussi simple que d'aller au cinéma, qui coûte pas très cher et qui est pas compliqué.
Et est-ce que c'est un service qui est accessible à tous, enfin, en termes d'espace et de budget, enfin, concrètement, si moi j'habite dans un 15 mètres carrés et que je suis fauchée, est-ce que je peux accéder à ce service?
Alors 15 mètres carrés fauchée, il vaut mieux aller chez les voisins. Mais oui, la volonté, c'est vraiment, on est sur quelque chose qui se veut authentique, qui se veut un peu dans l'approche, enfin le do-it-yourself, qui est un terme très à la mode, mais un peu l'approche débrouille. On n'est pas là pour être sur une scène, il n'y a pas d'ingé son, il n'y a pas les lumières qui vont bien, etc. C'est plutôt l'émotion qu'il y a, le rapport au public qui est juste à côté ou sur les genoux, et qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc à partir de 20 mètres carrés, si on a ne serait-ce qu'un grand salon de 15 mètres carrés, par exemple, pour accueillir une quinzaine, vingtaine de personnes, c'est suffisant. Au niveau du prix derrière, on a des groupes qui viennent jouer au chapeau. Donc en fait, c'est les invités qui vont payer à la fin en fonction de ce qu'ils peuvent et en fonction de ce qu'ils ont envie de donner. Et le groupe va se rémunérer comme ça. Ou on a des groupes qui viennent jouer au forfait, soit pour eux, soit parce que parfois les autres n'ont pas envie d'imposer à leurs invités de devoir payer à la fin du concert, c'est les mêmes mal à l'aise. Et c'est des forfaits qui sont en dessous de, enfin, en gros, qui sont à 100, 200, 300 euros maximum. Donc c'est un prix qui peut rester abordable.
Et donc là, tu disais que ça a été lancé en 2014. Les premiers retours, en fait, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe par rapport aux premières expériences de concert?
Les gens sont enthousiastes. Il y en a plusieurs qui avaient quelques appréhensions. Certains par rapport au bruit que ça pouvait faire, d'autres par rapport à la complexité que ça pouvait être de le mettre en œuvre. Mais tous les concerts qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, tant du côté musicien que du côté des hôtes, parce que les musiciens aussi apprennent. Certains, c'est la première fois qu'ils font un concert en appart, donc ils ont parfois un rapport un peu comme si c'était une vraie scène, avec une vraie salle avec qui on communique, alors que c'est un particulier à qui on parle. Voilà, mais donc tout ça s'ajuste et se passe à chaque fois très bien. Donc c'est vraiment des belles expériences qui ressortent.
Merci. Alors du coup, je vais vous présenter Camille Henry. Donc vous êtes responsable de la communication chez Drivee. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Drivee? Donc sachant que c'est une plateforme de location de voitures entre particuliers qui a été créée en 2010. Vous êtes leader dans le secteur en France, si je ne dis pas de bêtises, avec 100 000 locations réalisées depuis 2010. En juin dernier, vous comptabilisiez 17 000 voitures et 250 000 membres. Et en mai, vous avez effectué une levée de fonds de 6 millions pour conquérir le marché européen.
Oui, donc tout a été presque dit. Donc Drivee, c'est une plateforme de location de voitures entre particuliers. Donc concrètement, c'est des particuliers qui proposent leurs voitures à louer sur la plateforme à d'autres personnes qui n'en ont pas parce qu'ils n'en ont pas besoin tout le temps. Et donc, ils vont louer pour un week-end, pour des vacances, une voiture tout près de chez eux à un particulier. Donc, l'avantage, c'est que pour les propriétaires de voitures, ils rentabilisent leur voiture. Ça leur paye l'entretien, le parking, l'essence. Et en face, les locataires ont un prix plus intéressant qu'en agence traditionnelle. Ils peuvent louer tout près de chez eux. Ils peuvent récupérer la voiture vendredi soir, la rendre dimanche soir. Enfin, c'est flexible, pratique. Et puis, c'est plus sympa d'avoir affaire à un particulier, c'est assez convivial.
Par rapport à la création en 2010, est-ce que vous constatez des différences de typologie de consommateurs ou d'usagers?
Au tout début, c'était vraiment les early adopters, des gens qui étaient déjà dans la tendance avec le covoiturage, qui étaient un peu vus comme des extraterrestres parce qu'ils osaient louer leur voiture. Et en fait, ça s'est vraiment démocratisé au fur et à mesure. Maintenant, les gens se font beaucoup plus confiance. Ils font confiance aux plateformes grâce aux avis qui sont laissés. Ça s'est vraiment démocratisé, surtout grâce au covoiturage. Les gens ont passé une étape au-dessus avec la location d'appartements, la location de voitures. Et on voit que maintenant, ça paraît normal. Les gens ont beaucoup moins peur qu'il y a 3-4 ans.
Et bon, j'anticipe un peu la réponse, mais selon vous, donc c'est une pratique qui va en se généralisant pour les années à venir ?
Oui, évidemment. Enfin, nous, on le voit avec l'évolution du service, on ne fait que croître très très vite. Ça va se généraliser parce que les gens aiment bien passer par ce contact direct. Ils ont le sentiment, d'un côté, de faire un peu leur petit business, de gérer leur affaire, de gagner un peu de sous en plus, de maîtriser leur budget. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et en face, les gens sont contents aussi d'avoir des bons plans, de donner des sous finalement à un particulier qui est comme eux. Donc ça va aller en grandissant et dans plein d'autres domaines sûrement que la location de voitures ou d'appartements.
Merci. Alors on va accueillir Célia Veloso. Vous êtes chargée de communication chez Bedi Casa.
Oui.
Pardon. Donc une plateforme de location de chambres chez l'habitant qui a été créée en 2007. Alors, pareil, j'espère ne pas dire de bêtises, mais vous comptiez environ 100 000 membres en 2013 contre 40 000 en 2011, donc il y a une nette progression en quelques années. Et actuellement, vos membres sont répartis dans environ 159 pays, ce qui paraît énorme. Est-ce que vous pouvez nous présenter, nous en dire un peu plus dessus ?
Alors, bonsoir. Donc, Bedi Casa, c'est du logement chez l'habitant entre particuliers. Et on a 250 000 membres aujourd'hui dans 162 pays et 34 000 lits. Donc, les chiffres ont un peu explosé. Et on se charge de mettre donc en relation les hébergeurs et les voyageurs pour leur permettre de se retrouver. C'est plus facile et ça permet aussi plus de convivialité. Donc voilà, les chiffres sont vraiment en train d'exploser, que ce soit en France ou en Europe, notamment dans la communauté du Sud, en Espagne et en Italie, on fonctionne très très bien. Et ça se développe de plus en plus, même au-delà de l'Europe.
Et quel est le profil type du voyageur en fait de Bedi Casa, ou peut-être qu'il n'y en a pas, mais quelle cible d'utilisateur est-ce que ça touche ?
Alors, en fait, on avait beaucoup de touristes jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. Et puis, aujourd'hui, on a beaucoup de professionnels qui utilisent Bedi Casa pour des stages, pour des formations, des jeunes qui partent avec Erasmus, par exemple, pour 6 mois en Colombie, qui ne savent pas où aller, qui ont peur. Du coup, ils se retrouvent chez un habitant qui leur donne des bons conseils. Et ça se fait de plus en plus. Donc, pour des raisons professionnelles, c'est vraiment un public qui est en train d'arriver en masse. Et puis forcément, les familles, par exemple, qui ont un plus petit budget, ça leur permet de partir en vacances pour moins cher. Donc c'est vraiment intéressant. Et on a aussi beaucoup d'hébergeurs qui, période de crise oblige, ont besoin d'un revenu complémentaire, donc qui arrivent à boucler leur fin de mois en louant leur appartement, ou plutôt une chambre, puisqu'on est spécialisé dans la chambre chez l'habitant.
Et est-ce qu'il y a des garanties en termes de sécurité par rapport au fait d'ouvrir la porte en fait à des gens qu'on ne connaît pas, à des inconnus ? Est-ce que Bedi Casa propose des garanties ou une sécurité par rapport à ça ?
Alors en fait, quand vous réservez, vous pouvez souscrire à une assurance. Mais au-delà de l'assurance, on a un service qui est disponible 7 jours sur 7, qui est gratuit par téléphone. Donc au moindre souci, il suffit de nous appeler, on est là pour vous aider. Et surtout, il y a des tampons sur chaque hébergement. Quand vous cherchez un habitant, je ne sais pas, à New York, vous allez voir certifié par, avec un label qui veut dire qu'un ambassadeur ou quelqu'un de notre équipe est allé sur place voir la personne pour voir si le logement était salubre, si la personne était sympathique, si vous alliez être reçu chaleureusement. Et ça, on met un point d'honneur à la qualité de nos hébergeurs pour que vous soyez reçu en toute confiance chez des gens qui ont envie de partager avec vous. Donc, généralement, ça se passe très, très bien et les gens recommencent très, très vite à retourner chez l'habitant.
Et à l'inverse, en fait, côté hébergeur, est-ce qu'il y a des garanties également par rapport aux personnes qui viennent chez eux?
Alors, les garanties, on fait attention aux hébergeurs qu'on choisit. On ne met pas n'importe qui sur la plateforme. Il faut que l'hébergeur nous montre qu'il a envie de recevoir, qu'il mette des photos, qu'il mette sa description aussi, qu'est-ce qu'il aime dans la vie, ce genre de choses, puisque c'est collaboratif. Après, pour le voyageur, forcément, on ne fait pas attention à tout ça, puisque c'est une personne qui voyage. Mais par contre, on fait très attention aux commentaires, aux retours des gens. Et les commentaires des autres personnes, en fait, nous permettent de garantir si la personne va être quelqu'un de respectueux ou pas.
Et on parle beaucoup de Airbnb, qui est l'un de vos concurrents. Comment vous vous positionnez par rapport à eux et quelle est, en fait, la valeur ajoutée que vous pouvez avoir par rapport à eux?
Alors, en fait, Airbnb, c'est notre concurrent sans être notre concurrent, puisqu'il nous ouvre la voie, en fait. Nous, on a commencé en 2007, donc c'était avant Airbnb, sauf qu'on est à Montpellier, on est 20, et au départ, ils étaient 2. Donc forcément, c'était un peu plus difficile à mettre en place. Donc Airbnb a vraiment démocratisé l'hébergement chez l'habitant. Et aujourd'hui, grâce à eux, on peut faire parler du concept. Après, eux, ils sont plus sur une position de location d'appartements, d'insolite. Si vous avez envie d'une cabane en Bretagne ou d'un château en Écosse, par exemple, nous, c'est l'hébergement chez l'habitant. Vous allez chez un local qui va vous donner des conseils. Ça sera peut-être un peu plus simple. Le budget est aussi un peu moins cher. Mais c'est du partage avec un local. Voilà. Ce n'est pas simplement une location pour les vacances. C'est de rencontrer des gens sur place qui vous donnent des conseils. Le bon petit resto du coin, le bar où aller prendre un café, ce genre de choses.
Merci. Et Miora, du coup, va nous parler de son expérience en tant qu'utilisatrice de couchsurfing depuis une dizaine d'années, c'est ça?
C'est ça. Du coup, je me lance. Qu'est-ce que tu as envie que je te dise? Alors, le couchsurfing, j'ai découvert ça il y a 8 ans. En fait, j'ai déjà été... là, j'ai 35 ans. Je suis obsédée par le voyage depuis toujours. J'ai toujours eu une culture du voyage très dans la réalité, c'est-à-dire les trucs artificiels, ça ne me plaisait pas. Et je faisais déjà du couchsurfing avant de connaître la plateforme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'organisais un voyage, je parlais à des amis d'amis, j'organisais éventuellement des échanges, soit je travaillais pour la personne qui m'accueillait, etc. Donc j'avais déjà une logique de troc, d'une certaine manière, dans le voyage. Et forcément, quand j'ai découvert la plateforme Couchsurfing, à l'époque, il devait y avoir peut-être moins de 500 000 utilisateurs. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais plus à combien est la plateforme, mais c'est beaucoup. Il y avait vraiment ce début de ce qu'on appelle l'économie de la confiance. Donc, on était vraiment hors cadre par rapport à des façons de voyager. Et la communauté de Couchsurfing, c'était une communauté extrêmement soudée et extrêmement solidaire. Donc, très basée sur le lien. Donc, je regardais sur la plateforme, j'interagissais suffisamment longtemps avec les différents profils. Et très vite, une connivence s'installe. Et quand on va chez la personne, on est vraiment comme chez un ami. Et en fait, aujourd'hui, je fais un peu moins ça. Mais je garde dans mon espace-temps de voyage toujours un temps où je fais du couchsurfing parce que dans toutes les expériences que je peux avoir de voyage, ça reste la seule où je sens une complète générosité, où je sens vraiment une absence d'intérêt autre que le partage, la découverte. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au début, moi je voyage beaucoup et je reçois relativement peu. Parce que j'ai pas beaucoup d'espace. En fait, à Paris, on vit dans des petits espaces. Et j'en avais une certaine culpabilité. Et en fait, ce que j'ai appris en utilisant le couchsurfing au fur et à mesure, c'est qu'il y a vraiment des profils de voyageurs. En fait, il y a vraiment des gens qui reçoivent davantage et des gens qui sont accueillis davantage. C'est une vraie identité. Et pour ceux qui m'ont accueilli, j'ai toujours posé la question, mais pourquoi vous faites ça? Et en fait, c'est un voyage par procuration, d'une certaine manière. Donc, ils ouvrent leurs portes parce qu'eux-mêmes ont peut-être d'autres frayeurs. Ça leur fait moins peur d'accueillir un étranger chez eux que de voyager eux-mêmes. Donc du coup, on est vraiment dans un échange qui est équilibré, même s'il n'y a pas de réciprocité directe. Mais dans la communauté, on est vraiment dans un statut égal, ceux qui voyagent, ceux qui accueillent. Et de plus en plus, il y a des groupes de couchsurfers, il y a des communautés de couchsurfers qui organisent des activités, qui organisent des sorties, etc. Donc même si on a peur de se faire héberger chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, la communauté couchsurfing, en fait, est là, même si on n'est pas là pour habiter chez l'autre, mais on est accueilli pour prendre des verres, pour orienter dans la ville. Il y a des ambassadeurs aujourd'hui dans les villes. Il y a aussi des ambassadeurs par thématique. Si dans votre profil, vous dites que vous aimez la rando, vous allez rencontrer des gens qui font de la rando. Donc, c'est devenu un truc très, très, très complet et avec énormément de possibilités pour mettre les uns et les autres en confiance. Et voilà, ça, c'est mon témoignage.
Merci. Alors du coup, là, j'ai une question un peu à la personne qui veut répondre se manifeste. En gros, est-ce que vous pensez que les vacances collaboratives ou l'essor du tourisme collaboratif signe un peu la fin du tourisme de masse? Enfin, ou, qu'est-ce que ça peut vous évoquer? Quel est votre ressenti par rapport à ça?
Alors, on a un exemple qui est très concret, c'est en Espagne. Souvent, quand on pense à l'Espagne, on pense aux grandes structures au bord de la plage où c'est pas cher et il y a 10 000 appartements disponibles. Et en fait, on a un marché espagnol qui est très, très ouvert et qui grandit de plus en plus et où on va vraiment découvrir un Barcelonais, un Madrilène et non pas une grande structure énorme où vous avez le petit déjeuner inclus, vous payez une certaine somme, vous repartez et vous n'avez rien vécu du tout de l'Espagne. Donc c'est vraiment le marché typique où on passe plus du marché de masse à quelque chose de plus local, de plus authentique et de plus... Voilà, vous partagez réellement quelque chose. Et l'Espagne, je trouve que c'est vraiment un bon exemple pour le coup. Après, il y a plein d'autres pays, hein, mais...
Moi, ce que ça m'évoque, c'est que c'est pas tellement que l'industrie traditionnelle va arrêter, c'est surtout que ça va repositionner chacun sur ce qu'il sait faire le mieux. En fait, dans les offres disponibles, que ce soit Bedicasa, Airbnb, etc., ça crée des expériences vraiment de communauté. On ne va pas se reconnaître dans une enseigne, on ne va pas se reconnaître dans une marque, on va se reconnaître dans le type de gens qu'on a envie de fréquenter. Et du coup, à chaque marque ou entreprise ou communauté, d'envoyer les signaux sur, ben voilà, si tu as envie de ça, viens chez moi. Si tu as envie d'autre chose, viens chez l'autre. Et c'est pas très grave. Et même dans les moments de notre vie, dans notre parcours de vie, on aura envie un coup d'avoir telle expérience et un coup d'avoir une autre. Donc ça devient très systémique. Et moi, quand je voyage seule, je fais du couchsurfing. Quand je voyage avec des potes, je fais un mix entre chez l'habitant ou l'hôtel, etc. Donc pour moi, en fait, ça crée une amplitude d'options qui est beaucoup plus large qu'avant. Et j'apprécie d'autant mieux.
Merci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous évoque des réflexions? Est-ce que vous voulez avoir un retour particulier sur... Oui?
Juste, je reviens par rapport à ce qui a été dit juste précédemment, et après peut-être on passera aux questions. Il y a quelque chose qui est aussi important de dire dans le collaboratif, c'est que le collaboratif finalement coûte beaucoup moins cher. Dans tout ce, si par exemple on prend le transport, même un voyage en car vous coûtera plus cher qu'un voyage avec un des gros acteurs ou avec un drive-y. Donc, et c'est pareil si par exemple vous partez avec Club Med ou vous êtes logé chez l'habitant avec Bedicasa ou autre. Donc en période de crise, forcément, je pense que le collaboratif a toute sa place et un bon positionnement.
Merci. Vous vouliez poser une question?
Bonsoir. J'aurais voulu connaître les chiffres de Couchsurfing, s'il vous plaît. J'aurais voulu connaître les chiffres de Couchsurfing. Vous avez eu combien d'abonnés à la création et combien à présent?
Alors, juste une précision, Miora travaille chez Danone Communities et elle fait part de son retour d'expérience par rapport à voilà, son expérience personnelle de voyage via le Couchsurfing. Mais peut-être, Miora, que tu as des chiffres et que tu as des parts chez Couchsurfing.
Non, malheureusement non, mais si tu as internet, regarde rapidement la plateforme et on est à, je pense qu'on a dépassé le million, il me semble. Parce que très très vite, ça a progressé et en plus, il y a eu un saut assez drastique, je ne sais plus en quelle année, mais pendant longtemps, le couchsurfing, c'était vraiment une plateforme de volontaires. Et en, je ne sais plus si c'était en 2010 ou 2011, quelque part par là, ils ont fait une grosse, grosse levée de fonds. Et donc aujourd'hui, donc il y a énormément de moyens et donc ils ont tracté encore plus de gens. Donc c'est, ça a explosé. À l'époque où j'ai commencé, il y avait plusieurs plateformes de ce type de choses. Il y avait une autre plateforme qui s'appelait Hospitality Club. Je pense qu'aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est, quoi. Donc Couchsurfing a largement gagné en visibilité, en reconnaissance.
Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir si les hébergeurs étaient plus dans les grandes villes ou à la campagne.
Ouais, vous deux.
Alors, en fait, on en a éparpillé un peu partout dans le monde, que ce soit à la ville et à la campagne. C'est plus le profil des voyageurs qui est différent. En fait, pour tout ce qui est professionnel, on va beaucoup se diriger sur les villes. Et pour tout ce qui est vacances un peu hors des sentiers battus, ça va plus être à la campagne. Mais on a vraiment de tous les profils. Souvent, dans un pays, quand on arrive, ça va débarrer par la ville. Donc, par exemple, Madrid en Espagne ou Londres en Angleterre. Et ensuite, voilà, ça marche beaucoup au bouche à oreille. C'est en commençant dans la ville, souvent des jeunes assez, voilà, qui ont envie de tenter de nouvelles expériences, qui vont commencer à en parler autour d'eux, convaincre leurs parents, convaincre leurs cousins, leurs amis. Et après, ça s'étale. Mais oui, souvent, ça démarre dans la ville, dans la capitale même.
Est-ce que quelqu'un a une question pour l'un des intervenants ou sur le thème des vacances collaboratives ? Alors moi, je voulais quand même demander une chose, c'est que donc pour chacune de ces initiatives, il faut créer un profil, entrer en contact avec les gens, répondre, etc., être assez réactif. Est-ce que ce n'est pas assez, finalement assez chronophage, le fait de vouloir s'orienter vers le collaboratif ? Est-ce que c'est quelque chose qui demande plus de temps en amont ?
Du coup, je parle du coup en utilisatrice, sachant que je fais du couchsurfing, mais j'ai utilisé aussi Buscar ou d'autres plateformes collaboratives sur d'autres services. En fait, je pense que c'est pas plus chronophage. Je pense qu'au contraire, c'est beaucoup plus qualifié. C'est-à-dire qu'on va aller vers des gens vraiment avec lesquels on a un terrain d'entente qui va largement au-delà de la transaction commerciale. Donc en fait, c'est vachement plus rassurant. En tout cas, si je parle pour moi, moi je sais que sur la plateforme Couchsurfing, je vais rencontrer un vrai voyageur. Il comprend ce que ça veut dire une relation de proximité. Il a envie de me montrer des choses rares. Et en fait, je vais pas passer 15 heures de plus à faire tous les sites, de tous les trucs, de pages insolites, soi-disant, sans que j'ai aucune qualification. Donc au contraire, moi je trouve que c'est un rapport au temps qui est beaucoup plus efficace.
En fait, c'est différent pour la location de voiture, dans mon cas. Ça peut aller très très vite, parce que la personne répond tout de suite. Je dis, je veux louer votre voiture, j'ai prévu de partir en week-end, et on vous dit tout de suite, c'est d'accord, vous payez, c'est fait. Ça peut prendre plus de temps si vous avez mal choisi les propriétaires qui ne sont pas forcément très réactifs. Mais en même temps, c'est ce que tu disais, c'est que ils discutent. C'est pas envoyer un mail à un service client avec un message impersonnel derrière. C'est bonjour, je pars en week-end, votre voiture est dispo. Donc c'est assez convivial. Donc parfois, ça peut prendre plus de temps, mais à la fin, on a un service beaucoup plus personnalisé. Parfois, c'est aussi rapide et personnalisé. Donc finalement, on ne perd pas son temps en passant par le collaboratif. Après, il faut se dire aussi que derrière, il y a un service de qualité, un prix qui est plus bas. Enfin, on y gagne forcément à la fin.
Alors, nous, pour vraiment ce qui est de nouer des liens, c'est quelque chose qu'on va faire avant de partir et plus pendant, où on va le faire différemment. Donc, c'est vraiment de l'optimisation et du gain de temps à proprement parler. Et c'est vraiment les premiers retours utilisateurs que l'on a. C'est que finalement, on a permis de passer plus de temps en fait dehors plutôt qu'à finalement faire quelque chose qui est un petit peu difficile, qui est d'aller vers les gens, quoi. Pour mon cas, c'est ça.
Alors, pour conseiller en appart, je pense qu'on revendique même le fait de devoir passer un peu de temps. On est vraiment dans une logique de recherche de relations de qualité. Donc je préfère avoir quelqu'un qui a été capable de prendre 5 minutes pour vraiment regarder l'affiche du musicien, se dire que c'est celui-là que je veux, j'en contacte 2 ou 3 et je prends le temps de m'inscrire, plutôt que quelqu'un qui cherche un fond sonore pour son anniversaire et qui balance un mail à 50 personnes. Donc je pense, en fait, par rapport à ce que tu disais, dans le collaboratif, il y a une logique aussi d'implication. On est sur un échange autre que financier. On amène vraiment des éléments personnels, des relations, etc. Et ça passe par un don de temps qui se traduit par des économies financières un peu en contrepartie, mais on est sur de l'engagement quelque part.
Pour l'hébergement, je pense que c'est pas qu'on prend plus de temps, c'est qu'on se pose vraiment. En se disant, pas simplement qu'on cherche un appartement ou un logement, mais en se disant, tiens, qui est-ce que je vais rencontrer? Qu'est-ce qu'il aime faire dans la vie? Ça va peut-être devenir un ami. On en a beaucoup. On a même des gens qui sont... Enfin, c'est pas mythique, hein, mais il y a des gens qui se sont rencontrés comme ça. On a un papy qui a fait le tour de l'Espagne et qui a fini par rencontrer une hébergeuse. Ils se sont mariés, ils sont très heureux. Et c'est plus vraiment que de chercher... Des fois, on s'arrache les cheveux à trouver une location quelque part parce que c'est assez pénible, des fois. Là, on prend son temps, on découvre les gens, et puis si ça colle, et ben, allez hop, on y va. Et je pense que c'est beaucoup plus agréable, en fait. C'est vraiment... Les gens cherchent à se rapprocher aujourd'hui, et c'est un bon moyen de le faire.
Je me demandais si vous rassembliez parfois vos communautés propres. Est-ce que vous organisiez des événements pour qu'ils se rencontrent ou est-ce que le principe, c'est justement que ça reste virtuel et que chacun fait sa vie de rencontre sur la toile et se rencontre comme ça? Ou bien est-ce que vous vous dites que ça peut être intéressant de donner corps à ces communautés de gens que vous créez autour d'un service?
Alors pour notre part, on organise à peu près 3 ou 4 fois par an des apéros avec nos hébergeurs. Voilà, on les convie pour qu'ils se rencontrent un peu tous. Nous, on est sur Montpellier, donc souvent ça reste dans la région du Languedoc, mais voilà, on convie tout le monde. Et puis au-delà de ça, on fait des baby tours. On part en fait à 3 ou 4 de l'équipe rencontrer dans plusieurs pays dans le monde nos hébergeurs. Voilà, on leur lance un événement tel jour, on se rencontre tous dans un bar, dans un resto, chez quelqu'un même, et on se retrouve à une 50aine, voire une 100aine de personnes à discuter ensemble, à se rencontrer. Des fois, il y en a qui sont voisins et ils ne savaient pas qu'ils étaient tous chez Medicasa, donc ça permet de faire quelque chose de très très convivial, et les gens sont en demande de ça en fait, qu'on aille les rencontrer sur place pour discuter avec eux, rendre quelque chose de très humain, quelque chose à la base qui est très virtuel. C'est vraiment important.
Concert en appart, c'est un peu particulier parce qu'on est plutôt centré sur le cocon familial, amical, etc. Donc on est beaucoup moins dans de l'ouverture, en tout cas au niveau des gens qui assistent au concert, qu'on peut l'avoir sur du drive-in avec toi ou chez toi. L'ouverture, elle est plus par rapport au musicien qui va venir et qui va faire entrer. Donc à l'heure actuelle, mais le site est jeune, donc on verra comment ça évolue par la suite, mais il n'y a pas de pont à créer entre 3 appartements parisiens, quoi.
Alors pour notre cas, Links & Go, nous c'est un peu plus compliqué parce qu'on est sur le marché et nous c'est notre première véritable expérience là cet été. Maintenant on observe aussi ce que fait la concurrence et un de nos concurrents a pris ce parti justement de ne passer que sur l'organisation d'événements, justement des sortes de meet-up pour par exemple organiser des parties de volley sur la plage à Biscarrosse, des parties de foot, des soirées et encore d'autres choses. Par exemple, je pense à Trip & Co, là, par exemple. Après, nous, on n'exclut pas ça, et notamment, je pense que c'est une bonne idée d'essayer d'engager un peu la communauté avec des apéros ou encore d'autres initiatives. Mais je pense que, pour l'instant, notre métier, c'est vraiment d'arriver à faire ces connexions. Après, peut-être qu'on fera évoluer la chose, mais pour l'instant, on se concentre là-dessus, on essaie de le faire le mieux qu'on peut et d'essayer d'un petit peu mettre quelque chose de nouveau là-dedans.
Nous, on fait des apéros, pareil, comme Medicasa, avec nos propriétaires et nos locataires. On en a fait beaucoup sur Paris et maintenant, on va en province. Et c'est la même chose. En fait, ils aiment beaucoup se rencontrer. On pourrait penser que ce n'est pas très impliquant de louer sa voiture, mais en fait, ça l'est beaucoup. même presque plus qu'un appartement. Et les gens sont très heureux d'échanger entre eux, de raconter leurs histoires, de nous rencontrer aussi pour pouvoir avoir notre avis, nous parler de choses qu'ils voudraient améliorer. Donc c'est hyper intéressant de les voir en plus pour nous. Donc on essaye de les impliquer comme ça.
Oui, encore une fois, je rajoute que le plus grand capital de toutes ces plateformes, qu'elles soient payantes ou pas, c'est la confiance. Donc quand on peut se voir, se renifler, avoir un retour d'expérience, etc., c'est le plus grand capital qu'une de ces enseignes peut avoir. Et je pense que c'est aussi grâce à ça que Couchsurfing reste authentique malgré un grand sursaut, un peu pas commercial parce que c'est pas commercial, mais avec un plus d'enjeux de survie. Et du coup, par rapport aux trucs qui existent sur les plateformes Couchsurfing, donc je disais, il y avait des groupes d'intérêt, il y avait des ambassadeurs par Paris, par pays ou par ville, et il y a des trucs organisés. J'ai fait de la rando au Brésil, j'ai fait des soirées carnaval, machin. Et après, on a le choix, c'est-à-dire qu'on reste toujours maître de son expérience, quoi qu'il arrive. Donc, et c'est souvent fait par l'initiative des hôtes eux-mêmes. C'est pas centralement chez Couchsurfing, ça se fait. C'est la communauté fait son propre cadeau en fait aux autres.
Je suis en charge de la programmation de la recyclerie. Et évidemment, une des trois valeurs de la recyclerie, mais je pense que vous l'avez compris, c'est il y a le recyclage, tout ce qui est autour de récupération, recyclage, le do-it-yourself et toutes les initiatives collaboratives. Et ce lieu, évidemment, accueille avec plaisir des initiatives comme ça, d'apéro ou d'autre chose. Ça peut être pas que boire, ça peut être inventer d'autres trucs aussi, quoi. Voilà.
Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ça ?
Bon, on en discutera peut-être plus tard, du coup, mais en ce moment, Bellicasa a fait partir 4 personnes autour du monde, tout frais payés, pour découvrir nos hébergeurs sur place et transmettre donc cette idée du partage autour de l'hébergement chez l'habitant. Et ils rentrent le 4 septembre pour partager leurs expériences. Donc vous pouvez les suivre toutes les semaines sur Facebook, sur notre blog, sur le site. Et on cherche un endroit à la rentrée pour faire rencontrer tout ce monde. Donc ce serait possible qu'on en discute après.
Je voulais savoir si vous avez une idée de l'économie monétaire que peut représenter l'utilisation de votre service par rapport à un service classique, enfin traditionnel, que ce soit en termes de logement, en termes de location de voiture ou sur le volet loisirs.
J'ai pas du tout de chiffres, mais je sais que c'est minuscule par rapport à des loueurs traditionnels comme Hertz ou Avis, qui ont une clientèle professionnelle. Du coup, c'est des gens qui louent très souvent des voitures pour leurs déplacements. C'est dans les aéroports, ils ont des flottes énormes. Donc nous, on est vraiment tout petit encore par rapport à eux. On est vraiment une minuscule part du marché. Et par contre, oui, le combien on économise en utilisant Drivee, c'est en moyenne 30% moins cher qu'un loueur traditionnel. Après, ça va varier parce que selon le modèle de la voiture, l'ancienneté, mais on trouve des voitures entre 12 euros la journée et ça peut aller à 100 euros pour une très très belle voiture. Après, il y en a pour tous les budgets, du coup.
Alors nous, c'est pareil, ça varie beaucoup, mais en moyenne, chez nous, les chambres sont à 25 euros par nuit pour 2 personnes. C'est une moyenne, mais ça se retrouve dans toutes les grandes villes. Ça peut même, à Barcelone, on a à partir de 17 euros pour 2 par nuit, et vous avez, chez certains hébergeurs, des tarifs dégressifs en plus de ça, voire des promotions. Donc c'est beaucoup moins cher que l'hôtel, ça, il n'y a pas de doute. Et du côté hébergeur, en moyenne, un hébergeur peut gagner dans les 800 euros par an pour, en louant sa chambre chez lui. Donc c'est une moyenne. Il y a plus, il y a moins, mais voilà, ça permet quand même de faire un certain revenu complémentaire. Donc c'est très intéressant.
Drivee, moi j'ai vérifié hier, c'est 50% sur ma location. Concernant un appart, si vous partez sur un artiste qui vient jouer au chapeau, Vous donnez ce que vous voulez, donc ça peut être 5, 10 euros. Donc c'est le prix d'une place de cinéma pour un concert à domicile. Voilà. Donc c'est, après, c'est pas forcément sur l'angle monétaire, moi, que je veux amener la valeur, c'est vraiment sur le côté en appart, mais c'est quelque chose qui est très accessible et qui devrait être autant que le cinéma. On termine.
Je complète juste du coup, toujours côté utilisateur, en fait, ma décision de choisir ça, elle est... Elle n'est pas que dans combien de pourcents je paye en moins. C'est presque autre chose aussi, c'est consciemment, où est-ce que je veux mettre de la valeur. Consciemment, en gros, la question un peu abrupte, c'est qui j'ai envie de rendre riche aujourd'hui, quoi. Donc, quand je regarde une offre d'hôtel versus une offre de particulier, chez quelqu'un que j'ai appris à connaître, dont je connais un peu les conditions de vie, etc., je fais un choix conscient de me dire... Ma contribution, aussi petite soit-elle, je préfère qu'elle aille là plutôt qu'elle aille à plein d'intermédiaires d'une industrie qu'on ne contrôle pas très bien, etc., etc. Donc, c'est vraiment un choix averti de se dire où va mon argent, pourquoi je mets de l'argent là, et si j'en mets pas, quel est l'autre don que je fais, qui soit du temps, de la générosité et du partage.
Alors, je crois qu'il y avait une question sur le type de musique que propose... Concert en appart, mais je vais laisser... En fait, quel type de musique c'est ? Est-ce que c'est du punk, de la musique de chambre, de l'accordéon ?
J'ai absolument de tout. J'ai une cantatrice qui s'est inscrite hier. Les groupes les plus représentés, c'est folk, rock, musique française. J'ai un peu de jazz, quelques musiques classiques, un peu de musique urbaine. Donc c'est vraiment très très large en fait. Je n'ai pas de segmentation sur le site, je ne fais pas de ligne éditoriale musicale. Je m'attache à avoir des groupes de qualité. Après je ne suis pas là pour dire j'aime pas ou voilà. Il n'y a pas de vision artistique qui est portée par le site, il y a une vision de qualité. C'est la démarche du site.
Est-ce que quelqu'un d'autre a une question pour l'un des intervenants ? Je voulais vous demander si vous remarquez des pics de consommation en fonction des époques de l'année. Est-ce que les vacances ou les périodes, je sais pas, de Pâques, de Noël, est-ce que vous remarquez des différences en fait sur l'année ?
Nous, sans surprise, évidemment, c'est à partir de mai, donc tous les ponts de mai, avant ça, le lundi de Pâques. Donc là, on a les courbes qui grimpent, juillet, août, plein boom, et la deuxième période, après, c'est Noël. Donc voilà, après, entre les deux, on est plutôt en période creuse, mais c'est logique.
Alors évidemment, nous, c'est un peu comme Drivey, hein. C'est juste avant les vacances, beaucoup pour le réveillon aussi. Souvent, on a des groupes d'amis qui cherchent à passer le jour de l'an à Londres, à Rome, enfin voilà, dans une grande capitale, et c'est un bon moyen de se loger pour pas très très cher. Et puis, on a surtout la rentrée au mois de septembre, puisqu'on a beaucoup d'étudiants qui utilisent Bedicasa pour leur stage, pour partir à l'étranger, pour se loger, même temporairement. Par exemple, tout ce qui est alternance, c'est pas souvent évident de trouver à se loger une semaine par mois, de temps en temps. Enfin voilà, c'est vraiment pratique de trouver quelque chose comme Bedicasa qui vous permet de trouver un logement ponctuellement. Donc la rentrée pour nous, c'est aussi une période qui est très très importante, au-delà des vacances.
Bon, nous, on n'a pas encore de retour d'expérience, puisque évidemment, nous, on ne cible que les vacances, évidemment aussi un petit peu les ponts et les expériences d'expat, de stagiaires, etc. en septembre, octobre. Puis, a priori, notre cible, elle est plutôt étudiante, donc on va peut-être prolonger jusqu'en septembre, mais... Nous, petite statistique intéressante, c'est que les gens se connectent sur notre site plutôt en semaine et plutôt à l'heure du déjeuner, voire un petit peu après, 14h30, 15h le week-end. On a très, très, très peu de monde. En fait, c'est assez bizarre. On ne pensait pas du tout à ça, mais les gens font ça du boulot ou de leurs activités normales en semaine, quoi.
Et comment vous voyez l'avenir de vos structures dans 10 ou 20 ans ? À votre avis, comment... Sur l'évolution du collaboratif, est-ce que c'est quelque chose qui sera complètement rentré dans les mœurs et donc d'une certaine façon Ce sera un peu moins alternatif, donc il y aura plus cette valeur ajoutée par rapport à l'offre traditionnelle qu'on connaît, ou pas? Quel est votre point de vue là-dessus?
Moi, je pense qu'il y aura toujours des agences traditionnelles et des particuliers. Après, dans quelques années, on espère qu'il y aura des voitures partout en Europe, à chaque coin de rue, et qu'on pourra dire « j'ai besoin de partir, bah, j'en ai une à louer tout près de chez moi ». On peut aussi espérer, mais peut-être dans une génération, que les gens, qu'on arrêtera de penser à la voiture individuelle comme comme une chose normale. Les gens en ce moment se posent plus la question de la voiture en se disant « est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» Donc peut-être que dans 20 ans, on arrêtera d'acheter des voitures, on se posera la question « est-ce que j'en ai besoin ?» et puis on partagera les voitures qu'on a. Donc voilà, un changement de mentalité sur la façon de se déplacer qui commence tout doucement et qui, j'espère, va continuer.
Oui, moi je pense plus généralement que les early adopters de l'économie collaborative ont été plutôt les jeunes, les étudiants, ceux qui n'avaient pas trop de budget, justement, de ce qu'on parlait tout à l'heure, qu'aujourd'hui c'est en train vraiment de se densifier. On commence à toucher, je pense, des populations qu'on n'aurait pas forcément pensé toucher, notamment, je pense, peut-être pas forcément aux retraités, mais aux pré-retraités ou des gens comme ça. Et puis après, plus généralement, oui, pour la vision à 10-20 ans, c'est quelque chose de très dur, mais déjà... Moi, pour ce qui nous concerne à Linksingo, on essaie de voir déjà à 5 ans et on pense croissance, évidemment levée de fonds, mais bon là on n'en est pas là, on est vraiment dans la construction de la communauté, comme l'a été Couchsurfing au début, et on essaie déjà de se projeter à 2-5 ans, c'est déjà très dur.
Oui, alors Facebook n'existait pas il y a 10 ans, l'iPhone c'est 2007 je crois, donc tu nous demandes vraiment une perspective sur du digital qui réinvente en fait des systèmes assez fortement. Ce qui est, moi, la question de fond aussi, c'est est-ce que c'est un phénomène durable, le collaboratif? Est-ce que c'est un phénomène qui est lié à la crise aussi, qui est là depuis un bon moment et qui aussi mécaniquement fait que toute une population en fait se retrouve des motivations diverses et variées qui se formalisent dans ces éléments-là? Je pense sur Dravi, il y a plein de raisons en fait dont on peut vouloir louer un véhicule, ou tu disais aussi chez tes hébergeurs, il y en a qui vont le faire pour la rencontre, donc parce que ça leur permet de vivre. Donc voilà, c'est aussi là s'interroger sur qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi est-ce que cette tendance est aussi développée, est-ce que c'est la crise, est-ce que c'est un phénomène de société beaucoup plus global? 15 ans c'est très long. Et aussi le phénomène des régulations. On sait que Airbnb est en train de se faire tacler aux États-Unis et un peu partout, parce que derrière, bah, c'est le particulier qui crée une économie un petit peu souterraine. Comment est-ce qu'on régule ça? Est-ce qu'il y a les mêmes qualités ou les mêmes, en tout cas, assurances derrière qui sont garanties par ces services-là? Voilà, donc c'est tout un tas d'inconnus qui sont un peu compliqués à voir à 15 ans comment ça se passe. En tout cas, à très court terme, je pense que c'est vraiment une tendance de fond puissante qui va se développer.
Juste, je pense que dans l'avenir, ce qui est important aussi, c'est que ça rentre dans les mœurs, que ce soit pour les gens qui n'aient plus peur de louer ou de recevoir des inconnus, mais aussi, par exemple, en France, c'est légal de louer une chambre de sa résidence principale, pas plus de 4 mois par an, mais c'est légal. Hein. C'est complètement, vous vous impliquez dans la vie locale et il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc je pense que c'est important d'impliquer les gens dans la vie locale et qu'ils prennent conscience que ça devienne quelque chose d'habituel, qu'on ne se pose plus la question et qu'on se tourne vers le collaboratif, que ce soit pour l'hébergement, pour la voiture. Voilà, chacun s'entraide et je pense que ce qui est vraiment super, c'est que ce n'est pas que Bedicasa qui peut grandir, c'est Drivey, c'est Couchsurfing, c'est toutes ces plateformes qui permettent d'engranger un mouvement qui est fantastique en fait. Puisque vous faites des économies, vous rencontrez des gens et on se rapproche plutôt qu'aujourd'hui, avec Internet, tout est tellement virtuel, on arrive à rapprocher les gens grâce à ça. Donc je pense que c'est vraiment important.
Moi, je parierais plutôt, oui, sur beaucoup d'avenir pour toutes ces plateformes. Déjà, Couchsurfing, ça fait un moment et ça dure toujours. Ça fait partie des locomotives qui ont tiré toutes les pratiques de consommation collaborative. Et je pense que c'est moi, je le vis vraiment comme plus de liberté. C'est-à-dire, j'ai, comme je disais tout à l'heure, par rapport au choix des hôtels, en fait, si j'applique ça à toutes les propositions de consommation, j'ai vraiment une précision de choix sur l'expérience que je vais avoir. Et surtout, j'ai des transferts de pouvoir d'achat qui sont assez importants. Donc, peut-être que si j'avais eu qu'une offre d'hébergement classique, j'aurais pas pu m'offrir une offre culturelle autant que je voulais. Et c'est vachement limitant. Alors qu'aujourd'hui, en faisant le choix de troquer des vêtements, en faisant le choix d'aller chez Couchsurfing, etc., j'ai plein d'autres opportunités de consommation sur des biens aussi culturels et d'autres trucs à forte valeur ajoutée et qui vont améliorer mon cadre de vie et ceux des autres aussi. Donc, je pense qu'il y a vraiment de l'espace.
Je ne sais pas si vous avez complètement répondu à cette question, je la repose. Vous avez tous le même modèle économique ? Non. Parce que du coup, il y en a qui fonctionnent sur de la pub, c'est ça, en gros ? C'est la pub. Est-ce qu'il y en a qui fonctionnent sur un prélèvement de celui qui utilise ou de celui qui met à dispo ? Est-ce qu'il y en a qui font de l'abonnement mensuel ? Non, vous ne faites pas ça, d'abonnement mensuel. Pourquoi ? Parce que pourquoi ça ne marche pas. Okay. Donc en gros, les recettes de vos sites, c'est majoritairement de la pub.
Sur Drivey, il y a une commission. Donc sur chaque location, il y a une commission de 30% qui est prélevée, dont la moitié revient à l'assurance, parce qu'évidemment, il y a une assurance qui couvre la voiture, et dont l'autre moitié nous revient à nous pour l'équipe, les frais techniques et tout ça. Donc ça fonctionne sur chaque location. Voilà. Le propriétaire, on lui reverse 70% du montant, et on garde 30% de notre côté.
Nous, c'est un peu pareil. Enfin, c'est des frais mis en relation qui sont appliqués.
Nous, c'est pareil aussi. C'est une commission de 15% sur l'hébergeur. Donc, il met son tarif de base. Ensuite, il a un petit moteur qui lui permet de voir combien ça va lui revenir avec les 15%. Et comme ça, le voyageur, quand il réserve, il a le prix final, dès le départ. Il n'a pas 36 surprises à la fin qui vont tripler le prix. C'est le prix du début à la fin qui restera le même. L'assurance, après, c'est à la personne de choisir si elle veut la cocher ou pas. C'est parce qu'il y a des gens qui peuvent aussi prendre leur propre assurance personnelle, qui ont des conditions. Donc voilà, c'est aux gens de voir ce qu'ils veulent faire. Et après, grâce à la fidélité, c'est ce qui nous permet aussi à l'entreprise de grandir. C'est que ceux qui fonctionnent très très bien, les hébergeurs qui fonctionnent très bien, vont beaucoup recevoir. Donc forcément, pour l'entreprise, c'est encore mieux.
Je voulais savoir, il n'y a que des frais sur l'hébergeur, il n'y a pas de frais pour le voyageur, parce que moi je voyage avec Airbnb et je paye, donc ça marche très bien d'ailleurs, et c'est aussi chez l'habitant, donc voilà. Ah oui, ah bah oui, clairement, et on fait aussi des rencontres, enfin, c'est pour ça que je posais la question ville, où, parce que je cherche maintenant plus, et d'ailleurs la question ça marche aussi pour... Couchsurfing, je cherche à la campagne, à la montagne, dans des fermes, des trucs comme ça. Donc vous faites ça ou pas du tout, Saz ?
Alors, juste pour revenir à Airbnb, il y a aussi du chez l'habitant, sauf que la majorité, c'est quand même de la location d'appartements. Donc vous allez voir chez Claire ou voilà. Mais la plupart du temps, en fait, c'est du chez l'habitant avec l'habitant qui n'est pas présent, qui va vous donner les clés, si je vous assure. Alors qu'à 80%, même 90% chez Medicasal, l'hébergeant et l'habitant est là, en fait. Il vous reçoit, il vous fait à manger, voilà. Après, il y en a quand même. Hein. Ça dépend aussi des zones. Par exemple, si vous allez à Cuba... Vous n'aurez pas beaucoup d'appartements. Ce sera de la chambre chez l'habitant automatiquement parce que c'est culturel. Là-bas, on fait de la casa particular, c'est chez l'habitant, c'est comme ça. Donc ça dépend beaucoup des zones où vous allez. L'offre, elle sera complètement différente. Après, pour ce qui est de la campagne, vous ne trouverez peut-être pas le petit coin exact que vous voulez dans la région. Enfin, voilà, si c'est un village tout particulier, ce serait peut-être un peu plus difficile. Mais par contre, vous trouverez certainement à la campagne une ferme, une maison, un gîte, sans souci. Oui, oui. Oui, 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 tout à fait. Après, si vous voulez un endroit spécifique et que vous ne trouvez pas, il suffit de nous passer un coup de fil, c'est gratuit. Et puis nous, on vous aide, on connaît très bien nos hébergeurs, donc on vous guidera sans problème.
S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de poursuivre l'échange de façon plus informelle au bar autour d'un verre. Et je vous remercie à tous, bah, d'abord les intervenants, d'avoir joué le jeu. Donc, c'était notre premier café conso qu'on testait un peu, donc merci pour avoir joué le jeu du côté un peu expérimental. Merci aux filles sur le pont et à la recyclerie à nous avoir permis de faire ça ici. Et puis, continuons au bar avec une petite bière, ce sera parfait.